Chapitre 13. Le long voyage du grand fleuve. Les Indiens Choctaw appellent le Mississippi Bulbancha, ce qui signifie le lieu où l'on parle plusieurs langues. Au fur et à mesure que nous voguions vers le nord, ce nom prenait tout son sens. Les passagers qui sont montés à bâton rouge parlaient français, comme nous. Mais à partir de là, à chaque escale, de plus en plus de passagers parlaient anglais, en employant d'étranges dialectes que j'avais du mal à comprendre. Le Mississippi était large, imposant, et le Louisiana Story remontait le courant toujours plus près du rivage, si près même qu'on risquait de s'échouer. En esquivant avec une sérénité incroyable les méandres, les îles, les bancs de sable et les écueils, les troncs émergés, les poteaux et les rochers, les rapides et les bas-fonds. Loin, au milieu du grand fleuve, d'autres navires filaient à pleine vapeur dans l'autre sens, tout droit vers la Nouvelle-Orléans, en profitant des courants impétueux qui animaient le cœur du Mississippi. Régulièrement, un marin de l'équipage se penchait au-dessus du bastingage, lançait dans l'eau un poids attaché à une corde, puis le remontait et criait quelque chose. Son anglais de navigateur était si traînant que j'avais du mal à distinguer les mots. Mais certaines fois, je comprenais quelque chose. Mark Twain. « Et qu'est-ce que ça veut dire ?» m'a demandé Petit Trois. « Aucune idée. Peut-être que ce marin aime les romans d'aventure. Il y a quelque temps, j'ai lu le livre d'un écrivain qui s'appelle Mark Twain, justement. « Quel genre de livre ?»« Oh, c'est un beau livre. Ça parle d'un garçon, Huck, qui trouve un trésor et qui devient très riche. L'ennui, c'est qu'une fois qu'il est riche, il doit aller à l'école. Alors il décide de s'enfuir et de s'embarquer avec l'un de ses amis, un esclave, sur un radeau. Et avec ce radeau, il descend le Mississippi. « Mouais, » a bougonné Petit Trois, « c'est crétin. » « Non, c'est l'un des plus beaux romans que... »« Moi, je dis que c'est crétin, car c'est le contraire de ce qu'on fait, nous. »« C'est vrai, quoi, ce Huck a un trésor, mais au lieu d'être content de sa vie, il file vers le sud, alors que nous, on le cherche, ce trésor. »« C'est pour ça qu'on remonte le grand fleuve, exactement l'inverse de ce qu'il fait. » Il a réfléchi un instant, puis a ajouté. « En plus, ton Huck ne fait que suivre les flots. Il lui suffit de sauter sur un radeau et de se laisser porter par le fleuve. Sauf que nous, on doit naviguer à contre-courant. » Ça nous demande d'être fort, de nous acharner. Plus on avancera, plus ce sera difficile, parce que c'est enfantin de perdre un trésor. Mais en trouver un...
En trouver un, c'est tout autre chose, ai-je conclu d'un ton pensif. Personne n'a plus osé dire un mot, et nous sommes restés là, à observer le fleuve boueux qui écumait sous nos yeux. En réalité, j'ai découvert plus tard que les marins du bateau n'étaient pas férus de lecture. Ils ne faisaient que mesurer la profondeur du fleuve. Quand celui-ci atteignait le deuxième repère sur la sonde, les hommes criaient « Mark Twain », ce qui veut dire « Mark 2 » ou « Mark 3 », ce qui veut dire « Mark 3 », et ainsi de suite. Bref, ce n'était qu'une coïncidence. Néanmoins, le Mississippi était vraiment Bulbancha, l'endroit aux plusieurs langues, et le navire parlait une langue bien à elle, unique en son genre, que je comprenais petit à petit. Il y avait les mots qu'échangeaient les machinistes, comme « Stopper les machines, inverser les moteurs, allure réduite, et j'en passe. Et puis il y avait les mots des pilotes. Le bateau en comptait au moins trois qui se relayaient. Ils étaient tous les trois pilotes de contre-courant. Ils avaient l'habitude de guider le navire du sud au nord en suivant la berge du fleuve, là où se trouvaient les eaux mortes qui permettaient de remonter sans trop d'efforts. Mais il y avait en plus deux pilotes de courant qui conduiraient le grand bateau au cours du voyage de retour juste au centre du fleuve, là où la force des flots était effrayante, là où de grandes gerbes de boue déchiraient le Mississippi. Les pilotes de courant et de contre-courant parlaient des langues similaires mais différentes. Ils connaissaient par cœur les bas-fonds et les lacets du fleuve. Ils se lançaient des instructions et des avertissements. Ils se racontaient des histoires. D'après eux, le Mississippi n'était jamais immobile. C'était un énorme animal qui parcourait et qui rongeait les berges, en abattant les digues, en créant des îles. Parfois, le fleuve prenait un raccourci, c'est-à-dire qu'il sortait de son lit et envahissait un pré ou un petit bois en se creusant un long chemin sur la terre ferme, quitte à couper un lacet ou une courbe. Et c'est ainsi que des villages qui jusque-là se trouvaient au bord du fleuve finissaient à l'intérieur des terres, parfois à une dizaine de milles des flots. Si nous savions toutes ces choses, Psy 3 et moi, c'est que René nous les avait expliquées, et c'était bien naturel puisqu'il avait déjà parcouru le Mississippi au moins 100 fois d'un bout à l'autre. J'en doutais un peu, mais je me gardais bien de l'ouvrir, car René nous laissait monter jusque dans la cabine du pilote ou descendre dans les cambus pour chipper quelque chose à manger, et sans avoir à payer les 25 cents réglementaires. À bord du bateau, nous étions libres, libres comme nous ne l'avions jamais été. À vrai dire, nous aurions théoriquement dû nous trouver sous la responsabilité du capitaine. un gros bonhomme avec une barbe aussi hirsute qu'un buisson de ronces. Le premier soir, il nous avait convoqués dans sa cabine et nous avait fait tout un sermon sur l'importance d'avoir de la jugeote et du plomb dans la tête. Même s'il m'avait promis de nous avoir à l'œil, Titrois et moi, nous ne l'avons pratiquement pas revu, ce qui nous permettait de nous balader à notre guise. Julie, soyons honnêtes, n'était pas autant à la fête puisqu'elle était une fille, justement. Le capitaine avait donc demandé à une des dames présentes à bord, la veuve Laurence, de l'occuper et éventuellement de lui apprendre quelques passages de la Bible. Apprendre la Bible à Julie, on marchait sur la tête. Elle qui n'était jamais venue au cours du dimanche du révérend Thompson. Le fait est que la veuve Laurence était une petite vieille, voûtée, aussi douce et gentille qu'un général de corps d'armée. C'était elle dont la laine sentait la merde de poisson-chat, d'après René. Oh, je ne m'étais pas approchée pour vérifier. Mais j'avais vraiment mal pour Minnie, sa nièce, qui était forcée de voyager avec cette vieille bique jusqu'à Cairo, dans l'Illinois. Et j'avais aussi mal pour Julie, bien sûr. J'en avais connu d'autres, des femmes comme la veuve Laurence. Dans notre village, il y en avait trois. Madame Beau, Madame Travers et Madame Flinch. Une fois, j'avais parlé d'elle à Joe l'Indien. Il les avait appelées le trio des têtes rouges, car elles étaient comme ces vautours qui ont une tête de cette couleur. Elles puaient la charogne à des dizaines de miles à la ronde. C'était elle qui avait forcé la maman de Julie à quitter le village et à s'installer dans cette cabane à la lisière de la plantation. C'était toujours ce même trio, des têtes rouges, plantées devant la boutique du droguiste, qui faisait des commentaires à voix basse en secouant la tête d'un air inquiet quand mon ami passait en ville. Ces fois-là, elle ressemblait vraiment à trois vautours. Julie supportait ce genre de femme depuis sa naissance. C'est peut-être pour ça qu'elle n'était jamais dans les parages quand la veuve sortait de sa cabine pour l'appeler d'une voix stridente. En attendant, 2 jours s'étaient écoulés depuis que nous avions quitté la Nouvelle-Orléans et 5 depuis que nous avions quitté nos familles. Personne n'avait envoyé le moindre télégramme pour les prévenir que oui, on allait bien et qu'on s'était lancé dans une grande mission. Parfois, je me demandais tout de même si c'était une si grande mission que ça. Peut-être qu'on s'était trompé sur toute la ligne. Peut-être que Jack n'était pas un véritable agent de la société Walker et Down. Peut-être même que cette montre cassée ne valait pas tripette. Mine portait toujours autour du cou la bourse en velours que j'avais achetée à la Nouvelle-Orléans. Chaque fois qu'il avait une minute de libre, il sortait le vieil oignon et le faisait tourner entre ses mains comme si c'était un trésor. Au moins, ce machin avait de la valeur pour lui. « On peut savoir ce qu'elle a de spécial ?» lui ai-je demandé un soir sur le pont, alors que Petit Trois et Julie s'étaient endormis comme de gros sacs de charbon. Lui était pelotonné à mes pieds comme un chiot. 7 heures et 9 heures. J'ai sursauté. Depuis que je connaissais Mine, c'était la première fois que je l'entendais parler. Pendant longtemps, j'avais même cru qu'il était muet. « Pardon ?»« 1 quart, 44, 27. » Je me suis relevé d'un bond. « Mine, mais tu parles ?» Il m'a souri en indiquant la montre. Je n'avais pas la moindre idée de ce qui se jouait sous mes yeux, je le jure. Mine avait toujours une passion pour les nombres, c'est vrai. Chaque fois qu'il jouait avec quelque chose, des cailloux par exemple, il les séparait en petits tas pour les compter et les recompter. Était-ce pour cette raison qu'il aimait cette montre? Parce qu'il y avait des chiffres écrits dessus? Possible. Enfin, allez savoir ce qui se passait dans la tête de Mine. Notre voyage s'est poursuivi au fil du fleuve qui, à cet endroit, marquait la frontière entre l'État de Louisiane et celui du Mississippi. Les villes défilaient les unes après les autres, forçant le bateau à zigzaguer de la rive droite à la rive gauche pour faire halte dans différents ports. Chaque fois, nous changions d'État au passage. Natchez, État du Mississippi. Vidalia, État de Louisiane. Vicksburg, Mississippi. Tallulah, Louisiane. Qui aurait cru que le monde puisse être si grand, avec autant de villes, avec autant de gens? Le passager clandestin qu'on avait découvert le premier jour se faisait appeler Cheat. Il prétendait qu'il avait déjà voyagé partout aux États-Unis, du nord au sud et de l'est à l'ouest. C'était un orphelin qui vivait en commettant quelques vols et en faisant des petits boulots à droite et à gauche. Il racontait tout ça comme si c'était l'histoire la plus drôle du monde. Cet après-midi-là, nous étions terrés dans la soute à bagages. Par rapport à la salle des machines, c'était un endroit frais et silencieux, sans compter qu'il n'y avait jamais personne. Je lui ai demandé d'y voir. « Comment tu as fait pour convaincre René et les autres de ne pas te jeter dans le fleuve ?»« J'ai mes secrets, » a-t-il répondu en mâchonnant un bout de viande séchée avec un bruit pâteux de ruminant. « Lesquels ? On aurait dit des dessins, mais je n'ai rien vu. » Je ne voulais pas vous les montrer parce qu'il y avait cette fille avec vous. Julie? Ouais, elle n'a pas le droit de voir. Mais toi, si tu veux, oui. Il a eu un sourire espiègle, ouvert son sac de voyage et sorti un paquet de feuilles chiffonnées qu'il m'a passé avec un clin d'œil. Je m'étais trompée.
Ce n'étaient pas des dessins, mais des photographies. Elles représentaient des femmes entièrement déshabillées. Une fille fumait adossée à un mur, une autre était allongée dans un champ, une troisième était sur un cheval. « Pas mal, hein ?» a demandé Cheat. « Je n'avais jamais vu quelqu'un tout nu, ni une femme, ni même un homme. Enfin, il y avait bien eu la fois avec T3 où on avait surpris Madame Thompson, la femme du révérend, en train de prendre son bain dans le fleuve. Et je vous garantis que ce n'était pas beau à voir, on avait aussitôt décampé. » D'un ton hésitant, j'ai bafouillé. « Excuse-moi, mais René a accepté que tu restes uniquement pour voir ses photos ?»« Tu n'aurais pas fait la même chose ?» J'ai tout sauté sans trop cacher ma gêne, et Cheat m'a envoyé un coup de poing dans l'épaule. « T'es un vrai perdreau de l'année, dit, un petit minot, mais attends encore quelques années, tu verras si j'ai pas raison. » Je ne savais pas si c'était vrai, et surtout je ne savais pas en quoi il était censé avoir raison. Mais ça m'a sacrément soulagée de voir Julie entrer comme une furie dans le dépôt à bagages. Cheat a caché les photos avec une dextérité de prestidigitateur. En regardant Julie, je me suis rendu compte que j'avais rougi jusqu'à la racine des cheveux. Et une question me taraudait. Est-ce qu'elle serait comme ses filles un jour ? Oh, tu es là, a-t-elle dit. Les petits trois ? Je ne sais pas, peut-être avec René, ils doivent regarder les machinistes. Je vois. Bon, c'est pas grave. Viens avec moi, par contre. Seule, a-t-elle précisé en dévisageant Cheat d'un air mauvais. Le gamin a fait semblant de lui envoyer un baiser, assorti d'un clin d'œil, et elle a étouffé un grognement dégoûté. J'ai haussé les épaules et je l'ai suivi dehors où l'air était aussi chaud et poisseux que de la colle. Nous nous sommes installés à l'ombre contre le bastingage du pont des Chaudières. « Tu es tout rouge, comment ça se fait ?» m'a demandé Julie. J'ai essayé d'inventer une excuse, sans succès, et je suis restée plantée là, à l'observer comme un benêt, tandis qu'elle sortait une coupure de journal du décolleté de sa robe. « Regarde ce que j'ai trouvé, Ed. Quelqu'un a laissé ça sur une table de la salle à manger tout à l'heure. C'est quoi ?»« Une page du Picayune. Il date d'il y a 2 jours quand on a quitté la Nouvelle-Orléans. Depuis quand tu lis les journaux ?» Elle a haussé les épaules. « J'ai vu que ça parlait de Chicago, ça m'a intriguée, et puis... J'ai tout lu, même si ça m'a pris un petit moment. Et ça m'a encore plus intriguée. » Le bout de papier que m'avait passé Julie était tiré de la rubrique des faits divers. Le titre sur toute la page disait « L'assassin assassiné, le meurtrier de Miss Down retrouvé mort à Chicago. » J'ai demandé « Qu'est-ce que... » « Lis !» a répondu Julie. J'ai réajusté mes lunettes. L'article était accompagné de la photographie d'un homme d'un certain âge, avec des cheveux poivre et sel plaqués en arrière avec de la brillantine. Sur le cliché, il portait une chemise blanche et une cravate. On voyait qu'il avait été quelqu'un d'important, car il avait un air plein d'aplomb, comme ceux qui respirent en pensant faire une faveur au reste du monde. Le texte disait « Chicago. L'enquête sur la mort de Mr. Darsley, tué de 3 coups de pistolet retrouvé dans une ruelle il y a quelques semaines, se poursuit. Robert F. Darsley, 52 ans, avait été dans sa jeunesse un célèbre détective privé et l'ami intime de Miss Down, la fondatrice du célèbre catalogue des bonnes affaires aux côtés de Mr. Walker. » J'ai regardé Julie qui a simplement tapoté la feuille, sans un mot de plus. Mr. Darsley avait été condamné à la perpétuité pour le meurtre de Miss Down, survenu le 31 décembre 1899. Grâce au soutien des meilleurs avocats d'Amérique, Darsley a échappé à la pendaison, même si la sentence a fait couler beaucoup d'encre. Darsley n'a plus fait parler de lui jusqu'à la nuit où il s'est évadé de la prison après avoir trucidé un gardien de sang-froid. Sa cavale a néanmoins été de courte durée. L'individu a été retrouvé mort quelques heures après, aux abords de la gare de chemin de fer. Ironie du sort, c'est également dans cette zone que se trouvent les entrepôts de la Walker & Down Company et l'ancien domicile de la regrettée Miss Down. La suite de l'article donnait un certain nombre de détails saisissants au sujet de Mr. Darsley, qualifié de bête assoiffée de sang et d'homme proche de la pègre organisée de la ville. « Tu as compris ?» a demandé Julie. Comme la réponse était non, j'ai relu l'article depuis le début, puis calmement. Puis j'ai relevé la tête et dit « Eh bien, tu ne trouves pas ça bizarre ?» Le catalogue nous envoie par erreur une montre si inestimable que quelqu'un a failli nous faire la peau pour s'en emparer, et maintenant on découvre que l'assassin de Miss Down s'est échappé de prison quelques jours avant qu'on nous livre cette montre, et qu'il a d'ailleurs été tué non loin de l'ancien domicile de cette dame par-dessus le marché. J'ai replié l'article que j'ai rendu à Julie. Je ne comprenais toujours pas. « Tu le savais, toi, que Miss Down avait été assassinée ?» m'a-t-elle demandé, pendant la nuit du 31 décembre 1899. J'ai fait oui de la tête, à peu près tout le monde le savait. J'en avais moi-même entendu parler à 2 ou 3 reprises. Oh, ce n'était que de simples commentaires au sujet de la pauvre Miss Down et de son sort tragique.
lancée par les amis de ma mère avec une grimace pendant qu'elle prenait le thé au salon, rien de plus. « D'après moi, il y a un lien entre la mort de ce Dursley et la montre, » a dit Julie. « Forcément, et il faut qu'on le découvre. » Sans attendre ma réponse, mon ami s'est éloigné d'un pas, puis s'est retourné m'a gratifié d'un sourire en coin de chat sauvage. « Une dernière chose. Faites attention, petit toi et trois. »« Petit toi et toi. Ces trois types-là, les mousses et ce cheat, leur tête ne me revient pas. »